Afrique, les infos. À Washington, Camille Grosdidier.
Avec vous, Henri Francisque, bienvenue à notre journal midi à Ouagadougou, 13h à Yaoundé. On commence par le Rwanda. Les cérémonies de commémoration du génocide se tiennent demain dans le pays. L'association française Survie demande au président français Emmanuel Macron de reconnaître enfin la responsabilité de la France, alors qu'un Rwandais naturalisé français a été interpellé hier à Yaoundé. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
On demande à Emmanuel Macron de reconnaître officiellement que la France a soutenu le régime génocidaire avant, pendant et après les massacres, a déclaré Thomas Borrell de l'association Survie. Paris a toujours démenti toute implication dans les massacres. Par ailleurs, Philippe Atégué Kimana, devenu Philippe Manier depuis sa naturalisation française, a été interpellé à Yaoundé après un mandat d'arrêt lancé par un tribunal de Paris. Cet ancien adjudant-chef rwandais est soupçonné d'avoir organisé et participé à des massacres de milliers de personnes dans la région de Butare. Il avait fui après le génocide et s'était depuis domicilié dans la région de Rennes en France. Selon l'ONU, près de 800 000 personnes ont été tuées en 3 mois dans des massacres déclenchés le 6 avril 1994. 24 ans après, Kigali accueille demain samedi les cérémonies de commémoration. Pour les survivants, Ibuka signifie « souviens-toi », un devoir de mémoire.
La République démocratique du Congo fait des progrès ces derniers mois et semble s'acheminer vers l'organisation d'élections le 23 décembre 2018, selon un rapport de l'International Crisis Group. L'ONG a relevé des inquiétudes qui persistent sur la transparence et la qualité du scrutin, Eddie Sango.
Poker électoral en RD Congo est l'intitulé du rapport. International Crisis Group estime que les perspectives de la tenue d'élections cette année se sont améliorées. L'ICG cite comme élément de progrès la publication du calendrier électoral, la promulgation de la loi électorale et la fin de l'enregistrement des électeurs par la commission électorale. Pour l'ICG, le régime de Kinshasa est plutôt en position de force. Il contrôle fermement l'État et la machinerie électorale et l'opposition reste divisée. L'ONG prévient que le climat d'insécurité pourrait servir de prétexte pour reporter à nouveau ces élections. L'ICG appelle tous les acteurs à contribuer à l'organisation des élections crédibles et recommande au gouvernement d'autoriser tous les candidats à se présenter, à moins que des obstacles juridiques clairs ne s'y opposent. Un des opposants, Moïse Katumbi, après avoir été condamné dans une affaire immobilière, est aussi poursuivi dans une affaire de recrutement des mercenaires.
Au Cameroun, les autorités gouvernementales lancent un appel à la vigilance aux communautés vivant le long de la frontière avec le Nigeria. Une exhortation urgente après la récente attaque d'une base militaire camerounaise par des combattants du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka dans l'extrême nord du Cameroun, présenté par Lionel Gaïma.
Un vent violent balaie Saguenay, village camerounais déserté par ses habitants. Lundi, des dizaines de militants de Boko Haram, probablement venus de l'état de Borno, ont pris d'assaut la base militaire locale, tuant 5 soldats et blessant 3 autres. Selon les autorités camerounaises, les insurgés s'étaient déguisés en soldats et avaient peint leur véhicule aux couleurs de la force multinationale luttant contre Boko Haram. C'est la première attaque majeure de militants islamistes dans cette zone depuis plusieurs mois, a souligné le gouverneur de la région de l'extrême Nord, Midjiawa Bakari.
Nous appelons à plus de vigilance. Parce que les gens ont tendance à penser que Boko Haram, la page est tournée. Non, je dis qu'ils observent au quotidien pour trouver des failles et frapper pour faire le bilan au maximum. C'est une guerre psychologique. Ils sont dirigés et qui ont joué à la perfidie dans ces entrefaites qui l'ont pu surprendre. Nous saisissons cette occasion pour condamner au nom du chef d'État ces actes barbares et rétrogrades.
Aucun habitant de Saguenay n'a été tué car tous avaient fui en brousse. Les assaillants ont incendié plusieurs maisons avant de se retirer. Témoignage de Amidou Garba, un habitant.
J'ai tellement peur. Je n'ai pas confiance à certains individus que moi je ne reconnais pas quand je les vois, mon cœur bat. J'ai même perdu beaucoup de choses ici. Jusqu'à là, je n'ai rien récupéré. Je paie même le tissu de certains. Je suis la gouvernante, n'a même pas fait un geste sur nous.
On attend beaucoup, mais personne ne va nous suivre encore. Comme maintenant là, on est comme ça.
grand à notre grand-père de notre quartier et camarade qui nous aide un peu, qui nous donne 500 ou des choses comme ça. Ça se passe. Mais sinon, là, personne à nous regarder.
Cet éleveur de 52 ans a presque tout perdu. Le souvenir des tirs nourris lui donne encore une vive frayeur et il se méfie des étrangers. Il a confié à la VOA n'avoir amorcé son retour à Saguenay que récemment, après l'attaque de novembre dernier. De l'avis du gouverneur de l'extrême nord, Mijiawa Bakari, les insurgés de Boko Haram cherchaient probablement se venger après l'opération militaire conjointe de troupes camerounaises et nigérianes dans la forêt de Sambisa au Nigeria. L'opération avait permis de libérer des centaines d'otages et des dizaines de militants avaient été tués. Depuis 2015, les soldats ont chassé les insurgés de la plupart des territoires qu'ils contrôlaient. Toutefois, les militants de Boko Haram ont repris leurs attaques et leurs attentats suicides l'année dernière dans l'extrême nord du Cameroun et dans le nord-est du Nigeria. Leur raid de lundi contre la localité camerounaise de Saguenay illustre la vulnérabilité des communautés frontalières au moment où le gouvernement camerounais encourage des personnes déplacées par la violence à retourner chez elles.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, du nouveau Burkina Faso, le procès des auteurs du putsch manqué de septembre 2015 a été suspendu aujourd'hui et renvoyé au 9 mai. Les généraux Djibril Bassolé et Gilbert Diendéré, les deux cerveaux présumés du coup d'État, et les 82 co-accusés devaient être entendus dans cette phase du procès. Toujours en Afrique de l'Ouest, l'ONG de défense des droits de l'homme Synergie Togo, basée à Paris, ainsi que plusieurs associations locales togolaises, ont dénoncé hier l'arrestation mercredi à Lomé d'un éminent défenseur des droits humains. Les détails avec Jacques Aristide.
L'ONG demande la libération sans délai de Asiba Johnson, président de Réjade Togo, regroupement des jeunes africains pour la démocratie et le développement. Monsieur Johnson, dont la santé est fragile, doit pouvoir recevoir des soins appropriés. Selon Synergie Togo, il a été interpellé à Djidjolé et il est gardé au service de renseignement et d'investigation. D'après un responsable de la police, son arrestation fait suite à un rapport publié en février dernier sur le nombre de victimes de la répression des manifestations politiques depuis le début de la crise togolaise en août dernier. Selon ce document, les répressions ont fait plus de 100 morts, généralement par balle ou par exécution extrajudiciaire. Le gouvernement avait rejeté le contenu de ce rapport, dénonçant des affirmations tendancieuses et irresponsables, et avance un bilan de 14 morts, dont 2 militaires. De leur côté, trois associations locales demandent au gouvernement une enquête impartiale pour faire la lumière sur le nombre exact d'exactions commises pendant les nombreuses manifestations de l'opposition.
Le portage des eaux du Nil maintenant, une nouvelle session de pourparlers pour répondre aux inquiétudes de l'Égypte sur un méga barrage que construit l'Éthiopie sur le Nil a échoué. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le ministre soudanais impliqué dans les discussions. Les ministres des Affaires étrangères et les chefs des services de renseignement d'Égypte, du Soudan et d'Éthiopie ont tenu jeudi à Khartoum des négociations marathon pour essayer de trouver une solution à l'épineux problème du portage des eaux du Nil entre les trois pays. Idrissa Sédoudia.
L'Égypte craint que la construction du gigantesque barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu, entamé en 2012, n'entraîne une réduction du débit du fleuve dont elle dépend à 90% pour son approvisionnement en eau. L'Égypte insiste sur ses droits historiques sur le fleuve garantis par des traités datant de 1929 et 1959 qui accordent près de 87% du débit du fleuve à l'Égypte et au Soudan. Le barrage de la Renaissance est censé devenir la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique. Il devait initialement commencer à fonctionner en 2017, mais selon les médias éthiopiens, sa construction n'est achevée qu'à 60%. Après s'être opposé au projet, le Soudan soutient désormais le barrage. Le Nil Bleu, qui prend sa source en Éthiopie, rejoint le Nil Blanc à Khartoum pour former le Nil qui traverse le Soudan et l'Égypte avant de se jeter dans la Méditerranée.
Afrique du Sud, pour terminer, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma a affirmé ce vendredi être la victime d'accusations politiques au premier jour du procès pour corruption qui lui est intenté dans une affaire de vente d'armes vieille de près de 20 ans. Deux mois après sa démission, M. Zuma a brièvement comparu dans le box des accusés de la haute cour de Durban dans le nord-est du pays pour une brève audience, aussitôt renvoyée au 8 juin, pour permettre aux partis en présence de mieux préparer leurs arguments. mais aussi de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.